Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. J'ai réfuté totalement ce qui
moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de suivre Radio Capi qui vous propose Parole aux auditeurs, votre magazine d'échanges citoyens. L'alternative Mining Indaba pour cette année 2018 a débuté le mardi dernier à Kolwezi dans la province de Lualaba. Cette activité qui regroupe à la fois des opérateurs miniers, des membres de la société civile, des populations environnant les zones minières ainsi que les gouvernements se tient dans le contexte des discussions entre le gouvernement congolais et les principales sociétés minières sur l'harmonisation du règlement minier après la promulgation du nouveau code minier. Selon Georges Bukundu, directeur pays de l'Organisation internationale pour le suivi des ressources naturelles en Afrique australe, l'alternative Mining Indaba RDC vise notamment à sensibiliser la population sur l'apport de mining et attirer les investisseurs. Comment commentez-vous cette actualité? Toutes nos deux lignes sont disponibles pour vos interventions en direct, le 081-890-4969 et 09-97-06-4969. Vous pouvez également commenter ces sujets sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Willem Lungamba est à la mise en onde de ce magazine réalisé par Nico Kalamba et Jir Lungembo assure la coordination. Et Pierrot et Lamenji, j'ai le réel plaisir de vous les présenter, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Et nous avons associé à cet échange Monsieur Georges Bukundu, directeur pays de l'Organisation internationale pour le suivi des ressources naturelles en Afrique australe. Georges Bukundu, bonjour. Et vous intervenez sur place à Kolwezi. Nous sommes à quel niveau de travaux aujourd'hui?
Bon, je vais peut-être corriger d'abord. Je suis manager de Sarwa. Juste pour la petite carte. Nous sommes là maintenant. Ce sont les trois grands ateliers qui siègent avec des questions formulées, des recommandations après avoir soulevé quelques des défis dans le secteur minier. Donc, d'ici 14h, nous allons terminer les travaux proprement dits en attendant de clôture dans le site Katebi de Kolwezi.
Et pourquoi avoir choisi la tenue de ces travaux à Kolwezi? On rappelle quand même que ça fait deux fois que l'alternative Indaba se tient en RDC.
Oui, c'est-à-dire que la première édition oui. Des participants, c'était que la ville de Kolwezi soit comme le siège d'Alternative Mining Indaba et des conventions provinciales. Nous sommes revenus pour tenir la deuxième édition.
Qu'est-ce qui a beaucoup évolué entre la première et la deuxième édition? Y a-t-il des choses qui ont été recommandées à la première édition qui ont pu connaître l'évolution jusqu'à aujourd'hui qu'on tient la deuxième édition?
Oui, il y a quelque chose qui a évolué dans le sens où quelques recommandations formulées à l'endroit du gouvernement provincial, notamment sur l'encadrement ou la formalisation du secteur artisanal, le gouvernement provincial a pris certaines initiatives et ça commence à donner peut-être quelques résultats. Nous ne pouvons pas dire que le top ou le final où l'objectif total a été atteint, c'est un processus. On espère que, comme c'est une décision ou une recommandation qu'on avait prise ensemble, le processus va continuer jusqu'à un parachèvement positif.
J'ai vu dans les discussions qui étaient prévues dans ce programme, il y a la question de la lutte contre la corruption et la fraude dans la collecte et l'utilisation de revenus miniers. Quelles sont, les avancées qui ont été observées à RDC aujourd'hui sur ces secteurs-là?
Je pense que tous les participants ou toute autre personne peut estimer que On considère que le secteur minier, qui est le poumon économique de la RDC, devrait apporter cette satisfaction en matière de revenus jusqu'au top. Mmh. Chacun de nous sait que le Congo est aujourd'hui le premier producteur mondial de cobalt. Il est le premier producteur africain de cuivre, que nous avons atteint déjà 1 million de tonnes de cuivre dans notre pays, mais on ne sent pas l'impact sur le plan revenu, sur le plan recette de l'État. Et dans le débat ici, il y a une petite comparaison qui a été faite. Mm-hmm. Même si à un moment donné, les gens n'aiment pas faire cette comparaison. Lorsque la Gécamines produisait 480 000 tonnes de cuivre, les seuls producteurs, la Gécamines, a poussé l'économie du pays avec le secteur minier à plus de 50% de la contribution au budget de l'État. Mm-hmm. Mais nous avons, ça c'était 480 000 avec la Gécamines. Mais nous avons 1 million de tonnes de cuivre. Mais c'est moins de 15% dans le budget de l'État. Mm-hmm. Donc ça pose un problème de compréhension. Les uns pourront dire non, la Gécamines était une entreprise de l'État. C'est-à-dire que tous les revenus, c'était les revenus de l'État. Mais oui, mais la Gécamines avait aussi des engagements personnels en tant qu'entreprise. Avec les personnels, ce n'était pas l'argent qu'il versait dans les trésors. C'était ses contributions dans les trésors. C'est cet argent qui régulait un peu l'économie du pays, revenait peut-être au pays. Mm-hmm. Mais on ne peut pas dire que la Gécamines n'avait pas d'autres engagements au niveau extérieur. Donc, c'est cette difficulté de comprendre que nous avons doublé la production, au-delà même du double, mais la contribution du secteur reste à moins de 15%, lorsque nous avions moins de la moitié, nous
avions une production
à 50% à peu près. Mm-hmm. Donc on peut dire qu'on a atteint 1 million de dollars, on a moins de recettes. Qu'est-ce qui peut être à la base? Est-ce que c'est seulement parce que ce sont les privés qui ont les monopoles, qui ont l'argent, mais ils payent les taxes, ils payent aussi les salaires? C'est que la Gécamines aussi faisait. Ils font aussi la cotisation sociale. Donc, il y a quelque part où on peut chercher la raison. Mmh. Est-ce que c'est la corruption, c'est la fraude, ou c'est seulement la faiblesse de l'État? Nous sommes allés très loin pour dire que... même. Alors, on fait alors une simple comparaison. Si nous avions été satisfaits avec la production de la Gécamines, avec la contribution de la Gécamines, mais qu'aujourd'hui, nous avons une multitude de privés, pourquoi ne pas réfléchir sur la même idée de l'ancien État pour dire que non, l'État doit être alors acteur.
Oui.
L'État doit revenir acteur. L'État doit revenir acteur. Il doit revenir avec ses entreprises aussi comme des producteurs. Pourquoi la Gécamines ne peut pas produire? Pourquoi à ce moment ici, ça, ce sont des questions qui se sont posées.
Oui.
Pourquoi pendant ce moment que le cobalt a ces taux-là trop élevés? Et que nous avons cette capacité d'avoir une grande réserve au niveau mondial, on ne peut pas réfléchir pour dire que non, pourquoi nous-mêmes nous produire ça? Mm-hmm. Pourquoi on ne peut pas investir pour produire ça? Alors, donc, il y a toutes ces réflexions qui vont dans le sens de dire,
oui,
l'État congolais a estimé que l'AC ne peut plus faire un très bon service d'aviation.
Oui.
L'État a créé Congo Airways,
oui,
et Congo Airways produit aujourd'hui. Mais si on estime que la Gécamines ne peut plus produire et qu'il y a encore des patrimoines de la Gécamines, pourquoi ne pas créer une autre entreprise qui peut produire? Comme ça, on laisse peut-être la Gécamines avec toutes ses dettes là-bas et que l'État profite de cette embellie du cobalt et du cuivre pour être aussi producteur.
Exact.
Et ne pas laisser les monopoles
aux sociétés privées,
les investisseurs privés. Parce que nous allons continuer à plaire que notre secteur aujourd'hui a un niveau trop élevé en termes de cours des métaux et nous ne bénéficions pas.
Absolument
on va
rien.
Toujours continuer,
voilà,
à accuser les investisseurs pour changer peut-être les méthodes.
Voilà, ça dit qu'il y a de questions profondes de réflexion. On va revenir à vous, Georges Bokundou. On écoute aussi les auditeurs. Roland, vous êtes à Lubumbashi. Tout à l'heure, vous étiez avec nous sur la page Facebook. Roland, votre point de vue. Merci d'être avec nous. Bonjour, Roland.
Oui, bonjour, JR, et aussi bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Capi et aussi à notre invité, Gio.
On vous écoute.
Alors, Par rapport à la thématique du jour, c'est une très bonne initiative que nous devons encourager parce que en fait, ces secteurs et comme a dit notre invité, le seul poumon, n'est-ce pas, économique de notre pays. Notre pays est surriche, notre pays engorge plusieurs potentialités minières que si jamais nous ne sommes pas en mesure de mieux l'exploiter, nous risquerons également de nous retrouver dans une catastrophe économique. Alors, par rapport à ça, moi j'ai quand même quelques petites recommandations liées à plusieurs, à trois catégories des agents qui peuvent être les principaux acteurs de ce secteur. Entre autres, nous avons l'État, nous avons les entreprises ou soit les entreprises minières et aussi nous avons la population. Par rapport aux entreprises minières, JR, nous leur encourageons d'investir dans notre pays parce que en fait, par rapport à leurs investissements, nous la population, nous trouvons aussi du boulot. Nous trouvons aussi comment améliorer certains secteurs de notre vie privée aussi. Mais si jamais que ces entreprises viennent installer ou soit viennent s'implanter ici chez nous en RDC, vous trouverez que la plupart de nous, populations qui sont prises comme étant des travailleurs, à des fois on nous utilise comme étant des journalières. Donc on n'en profite rien, on ne profite rien et puis finalement nous n'avons pas les clauses de contrat. Par rapport aussi à nous, la population, nous devons savoir que nous devons vendre l'image positive de notre pays. Nous ne devons pas toujours avoir une image négative de notre pays en voulant le vendre par mal. Notre pays est si riche, mais comment pouvons-nous arriver à vendre cette image? Lorsqu'il y a toujours eu des crises politiques dans notre pays, la première des choses que la population, que moi je condamne souvent, c'est aller saccager les entreprises, aller saccager, n'est-ce pas, quelques biens des investisseurs qui sont ici. Alors, à ce niveau-là, nous n'arriverons pas à faire voir l'image positive de notre pays, parce qu'à chaque fois, les entreprises vont se dire, mais si nous allons nous installer en RDC, fin de compte, en cas de crise politique, nous serons attaqués. Vous voyez que c'est déjà aussi un problème. Mais par rapport à l'État, l'État est le seul manager, l'État est le seul parent d'une nation. L'État a un grand problème, l'État a un grand rôle. JR, vous savez que plusieurs investisseurs peuvent avoir l'idée de venir dans notre pays investir. Mais est-ce qu'ils vont signer contrat avec quel État, avec quel gouvernement? Parce que ici, nous sommes dans un gouvernement qui n'a plus ni légitimité, ni légalité. Ils vont maintenant venir signer avec quel? Puisque cette initiative, c'est pour, n'est-ce pas, arriver à faire vendre l'image, faire appel aux investisseurs afin de venir s'implanter ici, chez nous, en RDC. Mais comment ils viendront signer avec quel?
Mais rappelons quand même, Roland, qu'on est dans le système de continuité de l'État. Les institutions sont là. Il y a eu de pourparlers, des dialogues qui ont réuni des acteurs politiques autour d'une table. Ils ont sorti un gouvernement issu de ces discussions. On considère encore qu'on est dans la continuité de l'État. On pourra voir dans les prochains jours avec les élections qu'on ait un nouveau gouvernement qui pourra peut-être prendre d'autres engagements. Mais ici, vous êtes revenu sur la responsabilité des sociétés minières, mais non seulement la responsabilité de la population en termes de la protection du patrimoine chaque fois quand il y a des crises politiques, mais l'État a la responsabilité d'améliorer les climats politiques et les climats des affaires pour attirer ces investisseurs-là. Merci beaucoup. Trésor, vous êtes à Gbadolité. Bonjour.
Bonjour Pierrot.
On vous écoute, Trésor.
Merci beaucoup. Je salue l'initiative de l'Alternative Mining Indaba. Ces travaux, comme dit dans le sujet, visent surtout à attirer les investisseurs. Mais ils réunissent aussi les différents acteurs, gouvernement, société civile, exploitants. Ben, j'ai comme l'impression que les travaux de cette année risquent d'être risquent d'aboutir à un rapport incomplet, puisque après vérification, nous avons compris que les Nord-Oubang qui constituent aujourd'hui une province minière où l'on risquerait de subir une explosion minière à cause des minerais qui sont encore non exploités et qui nécessitent la présence des investisseurs sérieux, ne participe pas à ces travaux. Je ne sais pas comment on a procédé pour inviter ou bien pour lancer les invitations, réunir les participants. Et je ne sais pas si on doit continuer simplement à trouver les voies et moyens pour les provinces où les minerais ont été déjà exploités et qu'aujourd'hui ils sont en voie des disparitions où les minerais risquent de finir, alors que le Nord-Oubang, qui est dans l'espace Grand Équateur, donc présente un espace où les minerais manquent des artisanaux, manquent des coopératives minières, manquent des investisseurs à grande échelle comme les industriels miniers, parce qu'il y a des mines qui sont prêtes à être exploitées industriellement, à ciel ouvert ici. Et puis, bon, j'ai suivi l'intervenant, l'invité, qui a dit que Indaba aurait son siège à Kolwezi. Mais je pense que si je peux proposer, il faudra envisager pour l'année prochaine la tenue de ces travaux, par exemple à Badolité, pour donner pour booster l'exploitation minière dans cette province où les minerais sont encore bruts, non exploités. Et je crois que le gouvernement central aurait, je crois, la responsabilité de travailler sur cette question pour permettre à la province du Nord-Oubang de vivre aussi ce que les Katanga et d'autres provinces ont vécu grâce à l'exploitation minière. Les investisseurs, même si le Nord-Oubang n'est pas représenté, peuvent déjà se pencher sur la situation du Nord-Oubang. Et les portes sont ouvertes parce que nous sommes ici, nous sommes en train de contacter tout le monde, voir dans le cadre des actions.
Alors, vous savez que Trésor, vous souhaitez que prochainement, vous vous inquiétez que le Nord-Oubangui n'a pas été invité à participer à Alternative Mining Indaba, alors qu'il y a aussi des minerais dans cette province. C'est une question directe qui pourra peut-être être répondue par notre invité Georges Bokundou. C'est lui qui sait comment ça s'organise, qui sont invités, sur quelle base on invite les gens. Est-ce que toutes les provinces qui ont l'exploitation minière sont-elles représentées? Merci beaucoup Trésor Galvani, vous êtes ici à Kinshasa. Mais en attendant, Christian Leta, qui est avec nous sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs, dit ceci. Moi, je préfère que prochainement, qu'on puisse diversifier les investissements dans notre pays, que les prochains investisseurs ne soient pas seulement concentrés dans le secteur minier, qu'on puisse aussi avoir les investisseurs dans le domaine de l'agriculture, par exemple, de l'automobile, des cinématographies. C'est-à-dire que la RDC, c'est une diversité d'économies. Alors, on ne peut pas tout concentrer sur le secteur minier. Quand on voit la faiblesse de notre État, ça ne permet pas effectivement au secteur minier d'être assez compétitif pour permettre de donner des gros moyens à l'État congolais. Et Galvani, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Perrault. Bonjour à tous.
On vous écoute.
Merci pour la parole. Bon, je salue d'abord l'initiative de Ingaba pour cette sensibilisation concernant les entreprises minières, donc l'apport des entreprises minières dans la vie de la population aussi. Bon, comme ça va, il y a des objectifs qui vont boucher les investissements. Cependant aussi, j'émets certaines craintes.
Oui, Galvani, vous êtes lavé beaucoup de klaxons de véhicules là où vous êtes. Ça va pas nous permettre de suivre clairement votre intervention. Vous pouvez vous déplacer un tout petit peu rapidement, tout en intervenant. Ça peut améliorer la qualité de votre intervention.
D'accord. Comme je disais, sinon, j'émets certaines craintes, vu que souvent, des telles initiatives, on se sert souvent de la population. C'est vrai, oui, on sensibilise la population sur les apports des entreprises minières. Mais lorsque nous allons analyser vraiment d'une manière réaliste, nous trouvons que la population, c'est un peu la grande perdante malgré les investissements des entreprises minières. Nous allons prendre les cas. Vous allez constater aussi que dans des endroits où les entreprises minières évoluent plus, ces communautés sont les plus démunies. je ne sais pas expliquer quel est ce contraste-là, parce que normalement, ces richesses devaient profiter premièrement d'abord aux comités, aux communautés plutôt, que je voulais dire, aux communautés qui évoluent ces entreprises. Mais malheureusement, ces communautés, ne profitent que, bon, parfois elles sont même déguerpies dans leur milieu au profit de ces entreprises minières. Et c'est vrai, elles prétendent, disons, investir dans ces communautés-là. Vous allez trouver que non, les enfants dans ces communautés, il y a un fort taux de perdition scolaire parce que ces enfants partent dans le mine. Les enfants de cette communauté partent dans le mine. Donc, il y a vraiment de gros efforts qui doivent être fournis par l'État en collaboration avec ces entreprises et aussi, surtout, mettre au centre de toutes les communautés dans lesquelles sont implantées ces entreprises. Surtout ça. Parce que des fois, on peut sensibiliser, mais si ça s'arrête, c'est mal la sensibilisation. Donc, ça, on organise des conférences, des séminaires, mais pour quel résultat? C'est ça aussi le problème.
Merci beaucoup, Galvani. Et d'ailleurs, vous rappellerez que quand il y a eu ces débats, nous avons eu plusieurs émissions autour de la révision du code minier. On a estimé que l'ancien code minier, il favorisait plus les investisseurs que le pays et la population. C'est ainsi qu'on a eu un nouveau code minier. On va voir comment ce code peut-il profiter à la population. On l'a dit. Pour vous, vous dénoncez ces paradoxes, n'est-ce pas, entre l'exploitation minière et la pauvreté des populations dans les zones où ces entreprises sont installées, alors qu'il y a aussi cette clause d'intervention sociale. C'est-à-dire que dans ces genres de débats, il fallait qu'on mette un peu plus la population au centre de tout. Comment elle peut profiter de cette exploitation minière? Merci beaucoup. On retourne ici à Kinshasa. On reste à Kinshasa, bien sûr, avec vous, Christian. Bonjour, Christian. Christian, vous êtes avec nous, bonjour. Dommage, on a des petits soucis avec Christian. On venait d'exploiter son message tout à l'heure sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ce magazine. Plusieurs commentaires sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Si vous pouvez pouvoir rejoindre d'autres auditeurs, internautes, vous pouvez commenter ces sujets sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Alors, nous allons revenir tout à l'heure à notre invité. Je rappelle le numéro de contact pour intervenir en direct. 081-890-4969 et 09-97-06-4969.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Et nous retournons à vous, Georges Bokundou. Vous intervenez de Kolwezi plutôt, dans la province de Lualaba, où se tient cette édition de Alternative Mining Indaba. Vous avez suivi les compatriotes qui sont exprimés autour de cette question. Quel mot pourriez-vous placer par rapport à leur point de vue?
Après, mais je reviens d'abord pour la proposition du collègue du Nord Obangi. Je pense qu'il n'a pas tort aussi. Choisir une ville, ce n'est pas aussi facile. Si on avait choisi Kolwezi, c'est parce que d'abord qu'il y a presque près de 70% des activités minières se réalisent au bas. Et il y a aussi question d'infrastructure, parce qu'il faut vous amener à peu près 200 personnes ou 150 personnes. Il faut les loger, il faut les moyens pour les amener jusqu'à atteindre les techniques. On est ouvert pour ce genre de propositions. On ne sait pas si la troisième édition pourra avoir des changements. Et donc, sa proposition n'est pas mauvaise, mais on peut avoir peut-être des contraintes. Et ce genre d'activité, nous lançons les informations pour dire que c'est en tel mois, telle date, les travaux vont se tenir dans telle ville. Chacun est libre de s'enregistrer et de participer lorsqu'il a les moyens ou si l'organisation a quelques appuis pour prendre en charge certains acteurs. Alors, donc c'est ça. Par contre, effectivement, l'État a une grande mission. La mission par rapport à la sécurisation des investissements qui est placée par les compagnies. C'est ça le rôle de l'État. Et l'investisseur vient dans un État pour faire les bénéfices, mais avant de faire les bénéfices, il doit se rassurer que son investissement sera sécurisé. Qu'il y ait trouble politique, qu'il y ait succession des dirigeants, cela ne devrait pas normalement affecter un investissement si et surtout tout s'applique conformément à la loi. Quelqu'un qui vient faire l'exploitation, il est investisseur, mais il connaît que dans ce secteur-là, il y a une telle législation et il faut se conformer. Donc c'est ça. Je suis tout à fait aussi d'accord qu'on ne peut pas avoir une population qui doit aller piller les biens des compagnies. On peut avoir des revendications à faire. Et il faut faire des revendications et séparer les patrimoines qui est venu peut-être soutenir l'économie. Je suis aussi tout à fait d'accord qu'on ne peut pas avoir d'investissement, 1 milliard, 2 milliards, l'investisseur profite seul et qu'il n'y a pas d'impact sur la communauté qui est environnante. Donc, les commentaires sont importants. Je suis tout à fait d'accord avec ses collègues, ses frères qui ont formulé ces commentaires.
Mais est-ce que la question du nouveau code minier, parce qu'il y a cette inquiétude des galvanies sur la pauvreté criante autour des zones d'exploitation minière, on a estimé qu'en modifiant le code minier, on pourrait résoudre cette question. Pensez-vous aujourd'hui qu'on est là, avec le nouveau code minier engagé sur la voie où on peut voir exactement l'exploitation profiter aux populations locales et d'une manière globale au pays?
Contrairement au code minier de 2002, l'actuelle législation a quand même pris beaucoup d'aspects sociaux et environnementaux. Et la société civile a été trop active pour regarder toutes ces questions. De la délocalisation à la compensation, de la contribution au développement local, jusqu'à ce qu'on est arrivé à obtenir dans la loi un fonds qui est le fonds pour la contribution de développement social. Et de 0,3% sur les minerais vendus. Donc, ça, c'est pour que, au niveau local, qu'on ait un comité de développement durable. Et que ça, il y a plusieurs sources de financement qui ont été données dans les codes. Aujourd'hui, les entreprises, pour obtenir leur titre, surtout leur permis d'exploitation, il faut qu'ils signent un cahier de charges avec les communautés locales. Le cahier de charges qui doit reprendre tout ce que l'entreprise doit réaliser pendant tout au long de son exploitation, pendant tout au long de ses activités. C'est pour que l'entreprise qui commence à exploiter, qui commence à gagner des bénéfices, ne récupère pas tout seul et qu'il laisse quelque chose pour ces communautés qui l'entourent. Mm-hmm. On croit et qu'on pense et que cette fois-ci, on peut avoir un changement. Mais vous savez, la loi est la loi, il faut l'appliquer. Il faut maintenant, c'est une question d'application. Nous avions la redevance minière avec la loi de 2002, qui était très bien répartie, et qu'il fallait 15% pour les entités territoriales dans lesquelles l'exploitation minière tentait d'être réalisée. Mais on n'a jamais fait cette rétrocession-là. Mais dans la loi actuelle, nous avons voulu à ce que, et le législateur a voulu, à ce que les 15% soient immédiatement payés dans un compte qui est ouvert par l'entité territoriale. C'est de l'argent du trésor, de l'argent public, et l'entité territoriale représente l'État à ce niveau-là. Ces 15% peut alors faire des actions sur le terrain en faveur des communautés, changer quelque chose dans le fonctionnement de l'État, dans l'entité. Donc, il y a quand même beaucoup de dispositions qui sont très importantes et qui peuvent changer certaines choses. Mais il faut mettre ces dispositions en pratique. Il faut savoir que l'entité aussi, qui a ouvert ses comptes, commence à utiliser cet argent pour le paiement des salaires. On ne regarde plus les questions de développement local. Ou alors, nous avons le cahier des charges. L'entreprise n'exécute plus, il n'est pas sanctionné. Et la loi a prévu des mesures disciplinaires, des sanctions lorsque telle activité ou telle décision n'a pas été accompagnée. Donc, on pense que l'actuelle loi, si elle est appliquée avec rigueur, on peut avoir des changements. Il est vrai que ce n'est pas le secteur minier seul qui va développer tout.
Exact.
Il faudrait que l'État aussi, dans l'autre, je suis tout à fait avec l'autre qui disait qu'il faut diversifier l'économie. À partir des minerais, nous pouvons diversifier notre économie. À partir de ce que nous avons comme potentialité naturelle, l'agriculture, l'élevage, tout, ça peut suivre. On ne peut pas avoir une ville comme Colosu. Il y a plusieurs compagnies minières, mais nous ne savons pas développer l'agriculture. Parce que nous devons pourvoir aux besoins de toutes ces multinationales. Les communautés ou la population ou l'État doit fournir hein, les biens de consommation de ces compagnies. Et c'est à partir... Nous avons beaucoup de superficies, on peut faire l'agriculture.
Merci.
Donc c'est ça ma perception.
Donc, merci beaucoup. On va écouter John qui est à ici, Roger V. à Calémie. John, merci d'être avec nous. Bonjour, John.
Bonjour, cher Piero. Bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Oui, quand j'ai suivi le sujet, j'étais vraiment très ravi que l'alternative pour mining puisse quand même sensibiliser la population et les entreprises ici, les codes miniers. J'étais vraiment content parce qu'il faut que la population sache. Et les entreprises savent aussi que non, nous avons tel devoir vis-à-vis de l'État, nous avons tel droit vis-à-vis de l'État, et que la population sache aussi que non, nous avons tel droit, tel devoir. J'étais vraiment ravi, mais le problème, c'est bien de sensibiliser, mais quand on a cet ultimatum au gouvernement qu'au bout d'avoir des investisseurs, de toute façon, parce qu'à ce niveau-là, un investisseur ne peut pas quand même venir au pays là où tout ne marche pas, là où il y a les sécurités, là où il y a la corruption, là où la... vraiment c'est un peu difficile à ce niveau-là quand même. On peut sensibiliser les gens maintenant, mais la crête, le climat politique, tandis, je ne sais pas si c'est quel investisseur qui veut venir jeter son argent ici au Congo pour que vous situiez ça comme ça. C'est ça le vrai problème. Nous avons des... Vous voyez qu'il y a quand même... je suis content parce que vous voyez qu'il y a des gens qui déguerpissent, mais les gens, ça, même l'indemnité sur tout ça, ça pose des problèmes au Congo. Vraiment, je suis quand même au Congo, c'est quand même arranger la politique du Congo. Parce que nous avons seulement les ressources au Congo. C'est ce qui donne l'État la force. Ce n'est que le secteur minier. Il n'y a pas la Guinée, il n'y en a pas de ça. La douane n'en parlons pas. Ce n'est que la matière première qui mettait à l'image le budget de l'État. Alors, à ce secteur-là, maintenant, l'État est à faillite. Il ne veut même pas sur ça. Il y a la sécurité, il y a la corruption, l'opération de tout. Quand tu arrives au pays pour investir, il faut d'abord donner aux ministres, avoir de tout ça, ça pose des problèmes. Je sais que nous ne voulons pas. Si vous voulez quand même passer la paix aux investisseurs, il faut arranger quand même la maison. La maison est très sale. Il faut quand même aussi qu'on essaie de balayer quand même ça.
Merci beaucoup, John. Vous estimez que le secteur minier, jusqu'alors, il fournit des capitaux pour l'État, mais ce secteur doit être garanti par une stabilité politique, et en cas de détérioration des climats politiques, ça sera aussi difficile de pouvoir attirer les investisseurs, non seulement le climat politique, mais tous les autres éléments qui accompagnent, comme la lutte contre la fraude et, ainsi que la corruption. L'invité le disait tout à l'heure. Merci beaucoup, John. Gervais, vous êtes à Calémie, bonjour.
Oui, bonjour à tous les membres de la radio.
Gervais, on a des petits soucis là de vous suivre clairement. Si vous pouvez vous déplacer tout en intervenant, ça peut-être améliorer la qualité de votre intervention. On vous écoute, Gervais.
Oui, merci beaucoup, M. Piro, pour m'avoir associé à cette impeccable émission. Ma contribution par rapport à elle, c'est dans le cadre toujours de la société du projet Indaba, qui avait intervenu. J'ai suivi avec intérêt à l'intervention de l'invité qui dira que l'appel cause minier a un peu des avancées significatives que celui de 2002. Mais, à mon humble avis, je constate qu'il est aussi quelque part encore la finesse politique aussi. Parce que la question de sensibilisation, c'est une bonne initiative, sensibiliser la population, oui. Mais là, cette sensibilisation, son aboutissement serait mieux, c'est donc, tout en donnant un fonds, soit allouer des moyens financiers qui pourront en temps sortir aider ce secteur, mais sans cela, ça ne sera pas un peu être profitable. Parce que cette association, c'est une bonne initiative. Maintenant, sa concrétisation sera la fois donc le seul fait de financer les différentes sociétés minières. Aujourd'hui, les investisseurs seront venus, mais ce n'est pas pour le profit de la population locale, mais au moins c'est pour le gouvernement qui en bénéficie beaucoup plus. Aujourd'hui, la population est victime. C'est que à ce niveau du débat, la contribution est de pouvoir dire donc et donner des moyens efficaces qui pourront un peu aider à cette population. De bien vouloir aussi élargir cette situation. Nous savons bien que c'est la Colombie, que cette société minière réside de cela qu'il y a une production qui est première de grande envergure.
Et là, Gervais, dans le souci que vous développez, Gervais, c'est celui aussi qui a été développé par l'ensemble de nos auditeurs qui estiment qu'il faudrait arriver aujourd'hui à ce que l'exploitation minière profite aux populations environnant ces zones-là. Et Marie-Paul qui nous a rejoint en direct à partir de Kisangani, sur la page Facebook, Marie-Paul, vous avez dit qu'il faudrait que l'État congolais puisse mettre en place une gouvernance des mines axée sur une politique qui doit permettre aujourd'hui d'entamer les processus de développement. Marie-Paul, bonjour.
Oui, bonjour monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
On vous écoute.
Oui, comme vous l'avez su bien dit, l'activité entamée par l'alternative Ibanda n'apportera aucune solution idoine à la problématique de la gestion calamiteuse du secteur minier en RDC et aussi par rapport au développement tant souhaité par la population ou les habitants environnants où il y a de matières premières. Pourquoi je le dis ainsi, monsieur le journaliste, parce que c'est depuis longtemps, c'est depuis belle irrite conscience que la RDC c'est un pays des scandales géologiques, c'est un pays qui regorge beaucoup de minéraux, mais ces minéraux ne profitent pas au développement du pays. Pourquoi ces minéraux ne profitent pas au développement du pays? C'est parce que nous avons beaucoup d'acteurs privés qui... Ces acteurs-là sont porteurs des contrats léonais, et des contrats qui défavorisent suffisamment les pays. Les pays ne tirent pas des devises. Pourquoi? Parce que ce sont des privés qui interviennent trop, et ces privés ont chacun avec des documents signés par des autorités pour des intérêts privés, et maintenant, les pays et les gens, là où se trouvent ces minéraux, ne profitent à rien. Alors, voilà pourquoi j'ai suggéré plutôt que les pays doivent faire une gouvernance, doivent mettre en place une gouvernance dans les secteurs miniers. Alors, cette gouvernance va faire à ce que les produits que nous avons, parce que nous n'avons que des minéraux. Monsieur le journaliste, si vous voyez dans des marchés internationaux, qu'est-ce que la RDC amène? La RDC n'amène que des minéraux. Mais ces minéraux-là que la RDC amène, subit, justement, je l'ai dit dans l'une de vos émissions précédentes, qu'il y a des problèmes aussi qu'on appelle les problèmes des aléas des marchés internationaux. Alors, la RDC doit faire de son mieux pour profiter des minéraux qu'elle a comme ressource naturelle, les ressources potentielles. Nous en avons assez. Alors, il faut procéder par la transformation. On ne doit pas seulement être dans l'état initial, ça transformer, parce que nous n'avons pas les plus-values de nos ressources. Et aussi, nos ressources profitent au privé et à des sociétés multinationales. Alors, l'État qui devrait absolument attirer son développement par ses ressources, c'est désengagement de l'État, et vraiment, c'est une mauvaise chose. Voilà pourquoi je dis que le lobbying que cette alternative est en train de faire, je crois que ça ne va pas aboutir parce que nous avons là, nous sommes dans un pays où il y a l'absence de dispositifs, parce que le pays dispose, le pays a un dispositif important en matière de secteur minier. Nous avons la Constitution, nous avons même la résolution des Nations, il y a beaucoup de résolutions des Nations Unies qui consacrent au pays la puissance total de ces ressources naturelles et de ces ressources des sous-sols et des sous-sols. Mais pourquoi la RDC n'est-il pas? C'est parce que à la tête, il y a un problème de gestion. Je crois qu'il faut d'abord qu'on doit résoudre les problèmes de la gestion. Dès qu'on va résoudre ces problèmes de la gestion, nous allons maintenant, nos minéraux vont profiter au développement. Mais si longtemps qu'on n'a pas résolu ces problèmes-là de la gestion, même si on va faire des conciliambules, on va faire des conférences, toutes ces conférences ne vont aboutir à rien et le développement ne sera qu'une chimère. Alors que nous avons cette denrée qui est recherchée par beaucoup de pays. Il y a beaucoup de pays au monde qui n'ont pas cette potentialité. Mais nous qui n'avons, nous ne profitons pas de ça.
Merci. Merci beaucoup, Marie-Paul. Voilà.
Au développement.
Merci, Marie-Paul. Vous estimez que le secteur minier ne peut profiter au développement du pays que quand on aura instauré une gouvernance dans ce secteur, une gouvernance transparente qui puisse permettre de canaliser. D'ailleurs, vous avez suivi notre invité au début. Ils ont évoqué cette question dans cette rencontre. Le fait qu'on ait aujourd'hui ces booms miniers avec une exportation des millions de tonnes et que les secteurs contribuent à moins de 15%, près de 15% au secteur. Ne faudrait-il pas aujourd'hui réfléchir sur la responsabilité de l'État dans la production minière? C'est ce que vous souhaitez aussi pour qu'on arrive vraiment à faire bénéficier du trésor public de l'ensemble de ces avantages tirés de ces booms miniers. Merci beaucoup Marie-Paul Kahiri, vous êtes à Bukavu, bonjour.
Oui, bonjour Pierre, bonjour à tout le monde.
On vous écoute.
C'est une initiative salutaire, mais ce qui me fait peur pour espérer au développement de tous les peuples congolais, je pense que l'État congolais devrait obligatoirement faire la paix, la sécurité et la stabilité du pays pour attirer les investisseurs internationaux, tout comme les investisseurs nationaux. Hein? Puisque en cas de la paix, tout le monde doit investir au pays. Et il faut aussi penser à la fiscalité. La fiscalité ne doit pas être aussi un obstacle majeur.
Mmh. Merci beaucoup, Kahiri. Vous avez pensé qu'il y a des préalables pour que les secteurs profitent. Le développement, c'est la paix, la sécurité, mais la question de la fiscalité doit être aussi réglée. Il ne faudrait pas que la fiscalité soit aujourd'hui un obstacle majeur. D'ailleurs, ça a été évoqué dans l'une de nos émissions sur les codes miniers. Nous revenons à notre invité Georges Bokundu. Cette question de la fiscalité, on avait suivi les inquiétudes des uns et des autres en estimant qu'avec les nouveaux codes miniers, comme on a vu des grandes sociétés minières continuer à discuter avec le gouvernement autour de cette question hein, à travers le règlement minier. Pensez-vous aujourd'hui que le nouveau code, parce qu'il y a des voix qui estimaient qu'il ne risque pas d'être trop incitatif pour attirer les investisseurs, c'est pourquoi il y a eu cette réticence au niveau des grandes sociétés minières, Georges Bokundu?
Oui, il y a eu un problème, c'est vrai. Nous avons vu comment les groupes des sept, comme on les appelait, les grandes compagnies minières, ont rencontré les chefs de l'État et ils ont présenté des préoccupations, et principalement sur les questions de fiscalité. Et aujourd'hui, la plus grande question, c'est-à-dire que les miniers estiment qu'on a supprimé leurs droits acquis. Et les droits acquis qui leur ont permis, par exemple, de monter leur projet. Ce sont des questions qui ont été discutées largement lors des travaux du règlement minier et des propositions ont été soumises au gouvernement pour voir dans quelle mesure on peut avoir des rapprochements. Parce que c'est vrai, l'investissement, nous en avons besoin. Et l'État a aussi besoin de l'argent. Il faut concilier les deux. Il ne faut pas aussi que celui qui apporte l'investissement se trouve être en difficulté de mettre en application son investissement. Et donc, c'est un problème crucial. Si la fiscalité est trop élevée, tu ne verras pas aussi, ça ne sera pas attractif. Il ne faudrait pas aussi qu'on ait l'attraction sans gagner quelque chose. Donc, je ne dis pas que c'est un dilemme, mais ce sont des questions qui nécessitent des rapprochements, des harmonisations, et que chaque pays se retrouve. Mais je reviens pour dire tout ça, c'est parce que tout est laissé au privé. Si l'État était dans l'activité, l'État saurait qu'en augmentant cette fiscalité, parce qu'il y a mes enfants là-bas, mes propres entreprises, est-ce que mes entreprises vont survivre? Je peux affirmer aujourd'hui que les partenariats ont échoué pour les comptes de l'État. Les partenariats qui étaient la solution pour relancer les entreprises n'a pas réussi à relancer les actifs. Les entreprises. Il n'y a aucune entreprise qui a été relancée avec les partenariats. Donc, discussion que nous avons ici, il faut qu'on revienne à l'ancien système et combiner les deux. On a les partenariats qu'on pourra continuer à gérer, je ne sais pas dans quelle manière, pour voir qu'est-ce qu'on peut encore gagner, mais on doit être dans l'activité, dans la production, dans l'exploration. Et c'est à ce moment-là on saura que non. Mais moi, je peux parler avec les membres de la même fiscalité parce que je suis devenu une entreprise commerciale aujourd'hui. Je peux produire au même titre que telle entreprise minière. Pourquoi cette entreprise doit se lamenter à payer la fiscalité? Parce que moi aussi, je réponds à ces mêmes critères. Oui. Mais si on n'est pas dans ces critères, il faut pas laisser que... Il faut écouter aussi les difficultés de l'autre. Il y a ces problèmes-là, la nécessité aujourd'hui. La gouvernance, nous chantons tous les jours. Comment évaluer la gouvernance? Est-ce qu'il n'y a pas de texte? Il y a des textes. Est-ce qu'il y a une mauvaise application? Est-ce que les mécanismes pour appliquer ces textes existent? Peut-être oui.
Mais il faut aller dans les fonds pour dire que oui, j'ai les minerais, j'ai dans un certain temps à exploiter celles en tant que Jekamine, en tant que Sukimo, et j'ai eu des résultats, par exemple. Mais je suis trahi par mes propres, par exemple, dérapages. Je n'ai pas pu gérer mes entreprises parce que je n'ai pas pu adapter ces entreprises à des nouvelles technologies. Mmh. Maintenant, je comprends aujourd'hui que les nouvelles technologies, je peux aussi adapter, je peux faire comme les privés. Donc, je vais rentrer dans l'ancien système pour produire au même titre que les entreprises privées.
Oui.
Je ne les chasse pas. Je vais être en concurrence avec eux, de sorte que je ne les laisse pas à la régulation du secteur. Je ne dois pas leur laisser les monopoles. Parce qu'il ne faudrait pas que l'entreprise, celle, dise que non, cette usine, si j'ai acheté autant, ça va me produire 100 000 tonnes. Moi, je ne sais pas, parce que je n'ai pas cette usine, je n'ai pas monté ça. Mais si je sais que j'ai cette usine, je dois savoir que moi, j'ai acheté ça à 1 million, pourquoi telle a dit qu'il a acheté à 2 millions? Parce que nous tous, nous sommes acteurs.
Mmh. On a perdu notre invité Georges Bokundou. On va voir tout à l'heure avec la réalisation si on peut le recontacter à partir de Colusi dans la province de Lualaba. Il est en train d'expliquer là la réflexion que l'État congolais devrait mener sur cette question pour savoir si l'État devrait aussi aujourd'hui avoir des investissements dans les secteurs miniers. Par exemple, si la Jekamine n'est plus à mesure de pouvoir le faire, pourquoi ne pas créer une autre entreprise? On l'a vu avec les secteurs de transport aérien. Quand les lacs sont tombés complètement en faillite, l'État a pu créer Congo Airways qui produit aujourd'hui. C'est dans cette logique qu'il fallait réfléchir si les secteurs sont seulement contrôlés par les miniers, les privés, et qu'on soit à mesure de produire 1 million de tonnes de cuivre et que l'apport dans les budgets de l'État soit de 15%, alors que quand la Jekamine, si elle produisait 480 000 tonnes, on était à 50%. La réflexion profonde doit être menée pour savoir quel est le rôle que l'État doit jouer aujourd'hui dans ces secteurs. Merci beaucoup. On va les recontacter pour la conclusion, le temps d'écouter Assimoué qui nous appelle de Beni, dans la province du Nord Kivu. Assimoué, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. C'est Assimoué Bini Mwanga depuis la ville de Beni.
On vous écoute.
Moi, ma position est d'abord centriste, parce que je félicite d'abord ceux qui ont organisé la loi contre les textes, contre les partenariats, c'est une bonne chose. Mais ceux qui seront là-dedans ne doivent pas oublier que nous, d'abord, la population, il faut que la population puisse être aussi bénéficiaire de ces lois-là et des textes. Est-ce que les textes-là sont appliqués, les anciens textes qui sont là-bas, les anciennes lois, est-ce que les lois-là sont appliquées? Et est-ce que ce que la population, les représentants de la population doivent ajouter, c'est que nous, la population, ne sommes pas bénéficiaires des choses-là, des minières, des carrières minières. Maintenant, dans des entreprises de mines, on peut trouver les étrangers, mais les enfants du milieu, la population se place, n'est pas encadrée dans des entreprises-là. Quelqu'un qui est d'abord être d'origine de Katanga, qui travaille en province de Tchoko, mais vous allez voir, celui qui est sur place n'a même pas droit à être encadré dans un poste. Là, je suis en train de dire que les représentants de la population doivent en tenir compte lorsqu'ils vont s'en parler entre eux. Deuxièmement, je voulais juste souligner que on ne doit pas avoir plusieurs textes de sa résolution. Nous avons la production. Et maintenant, il faut bien orienter nos textes, nos lois, et bien appliquer cela. C'est vraiment cela que nos représentants de la population doivent s'attendre
sur ces deux points-là. Merci beaucoup, Assimoué. On va terminer avec vous, Dieudonné. Vous êtes à Mahagi. En une minute, vous avez suivi les soucis de notre ami Assimoué. On a des lois, mais il faudrait aujourd'hui qu'on plaide pour une canalisation, une orientation qui puisse profiter à la population. Et quel est votre point de vue, Dieudonné, en une minute pour permettre à notre invité de conclure cet échange?
Merci encore pour l'opportunité, M. Pierrot. En fait, je vais seulement être un peu détective. C'est une idée à saluer, c'est à louer. Je suis réellement tout à fait d'accord avec, parce que vous savez pourquoi ce qu'on peut déplorer est que ça commence toujours de la manière. On sensibilise, mais à la fin du compte, au finish, il y a la population locale qui est déguerpée, il y a l'occupation illégale, il y a même les groupes armés qui s'emparent et il y a l'implication de la population locale. D'où il faut réellement aboutir à une solution durable pour que les choses aillent de l'avant. Parce que nous, à l'Est, nous avons vécu ça et c'est ce qui nous mène jusqu'à aujourd'hui. En fait, c'est ça ma contribution.
Merci beaucoup, Dieudonné. On revient à vous, Georges Bokoundou. Vous avez suivi les uns et les autres. On doit chuter pour conclure. Quels sont le grand défi aujourd'hui qui pourront peut-être ressortir hein, de ce travaux et des grandes lignes qui pourront faire l'objet de travail pour cette année en attendant la prochaine rencontre?
Merci beaucoup, JR. Je pense que vous aurez toutes les grandes recommandations parce que pendant qu'on fait l'émission, les ateliers sont en train de finaliser l'adoption des recommandations. Mmh. Donc, nous avons effectivement reçu beaucoup de gens. On avait presque 250 personnes qui ont fait le déplacement de Kolwezi. C'est beaucoup, c'est énorme. Et il y a eu des discussions clés. Lorsqu'on dit nous avons évalué 10 dernières années, comment nous avions eu, qu'est-ce que nous avions eu, qu'est-ce que nous avons gagné, qu'est-ce que nous avons perdu, quelles sont les erreurs ou les défis que nous n'avons pas surmontés. Donc, ce sont des questions que nous avons discutées. On vous dit aujourd'hui, la situation actuelle, avec cette embellie, l'État doit profiter. L'État ne pourra pas profiter au maximum avec l'investissement privé. Il doit profiter de l'investissement privé pour faire son propre investissement. Sinon, on sera toujours en train de se lamenter tous les jours. Le code minier a été promulgué, il faut l'appliquer, mais il faut bien l'appliquer. On ne doit pas l'appliquer aussi au détriment des investisseurs. On ne doit pas l'appliquer au détriment de la population. Mmh. Il faut savoir que, comme un jour le ministre de Mines disait, ça doit être gagnant-gagnant. Il ne faudrait pas qu'une partie puisse perdre. Ça ne serait pas avantageux pour nous. L'implication actuelle de l'État dans l'exploration, dans la production, c'est capital. On ne peut pas tromper le gouvernement angolais aujourd'hui dans la production du pétrole parce que son Angola est dans toute la chaîne. Mmh. Il fait l'exploration, il fait les services, il fait tout. Nous devons faire la même chose pour que les privés ne nous mentent pas. Les privés ne va pas se plaindre, non, il y a telle fiscalité. Si vous avez vos entreprises qui répondent aux mêmes conditions, l'autre ne peut pas se lamenter. Donc, votre entreprise va d'abord se lamenter. Donc, vous-même, vous devez dire, non, voilà, si on fait ça, nous ne saurons pas aller de l'avant. Mmh. Donc, ce que nous faisons, c'est la sensibilisation. On ne dit pas qu'on va changer tout de même. Nous ne sommes pas le gouvernement. Nous avons un gouvernement, nos recommandations sont adressées. On considère que le gouvernement qui est là doit recevoir, doit appliquer. Si un autre gouvernement arrive, c'est la continuité des services de l'État et nous devons voir des changements dans le secteur. On ne peut pas être scandale géologique et on reste pauvre tous les jours. Pendant qu'on voit que les autres qui n'ont même pas les mêmes jugements comme nous, ils ont peut-être un petit jugement, mais ils gèrent ça bien et ça permet à ce que leur économie soit forte.
Merci.
Il y a même des gens qui peuvent profiter de notre propre ressource pour faire de leur économie une économie forte. Pourquoi nous ne pouvons pas faire plus que ses voisins ou ses autres partenaires au niveau mondial?
Merci voilà beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Georges Bokoundou. Faudra-t-il aujourd'hui hein, qu'on ait la volonté du côté des politiques de réfléchir et l'orienter les décisions prochaines, décisions politiques sur base de ces recommandations? Nous rappelons que vous êtes les managers de l'Organisation internationale pour le suivi des ressources naturelles en Afrique australe, SOR. Merci à tous. Vous avez été nombreux à commenter ces sujets. Le débat s'est poursuivi sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Merci à Willem Lungamba qui était à la mise en onde. Nico Kalamba y a réalisé ce magazine coordonné par J.R. Lungembo et Pierrot Elamenji vous l'a présenté. On se retrouve demain pour d'autres numéros de paroles aux auditeurs. Et surtout, nous vous souhaitons bien des bons moments et surtout une bonne fidélité. À Radio Capi, au revoir.